Culture sans frontières, Magdalena Hrozinková.
Je m'intéressais à ça quand j'avais 15 ans, donc je faisais beaucoup de déclamations, de poèmes, je lisais des poèmes et tout. J'avais fait du théâtre aussi à l'école, avec même du théâtre expérimental, on appelait ça. Oh, le flot de l'âme, dans les années 70, là, 70. Et puis après, j'ai eu mes enfants très jeunes, j'ai appelé tombé, puis je recommençais très vite, avec du théâtre pour enfants. Aussi parce que je me disais, tiens, je pouvais faire autre chose, mais très vite, je me suis dit, il faut faire des choix. En fait, depuis 25 ans, je fais quand même dans cette profession, quand j'ai commencé par le théâtre pour enfants. Puis j'ai fait ce spectacle-ci qu'on voit dans le film. Et puis j'ai travaillé encore dans d'autres troupes. Puis j'ai travaillé 12 ans avec Jérôme Deschamps. Je fais le raccourci. Hein. Et voilà.
Bonjour et bonsoir. Dans ce numéro de Culture sans frontières consacré au Festival international du film de Carlo Vivari, vous retrouverez deux actrices françaises qui ont marqué par leur présence les deux éditions précédentes de la plus grande fête du cinéma en République tchèque. La première, vous l'avez sans doute reconnue, Yolande Moreau a présenté au festival en 2005 sa première réalisation, le film « Quand la mer monte », où elle tient aussi le rôle principal. Son film est un jeu de miroir entre la vie réelle et le théâtre. La comédienne Irène traverse le nord de la France avec son spectacle « Sale affaire du sexe et du crime » et cette tournée sera marquée par une histoire d'amour qu'elle vit avec un des spectateurs Dries. « Sale affaire du sexe et du crime », un one-woman show sur l'histoire d'une femme qui a tué son mari et se confie au public. Yolande Moreau l'avait joué pour de vrai dans les années 80 et avec un grand succès, elle explique comment est né le film.
Calafaire, j'ai trempé dans un crime, c'est moche, hein? Il est mort, ça vous fait rien, ça vous touche pas, moi non plus.
En fait, c'est l'effet du hasard, c'est-à-dire que le co-réalisateur Gilles Porte a eu cette idée de partir de ce spectacle qu'il connaissait, parce que Gilles Porte est un ami, et d'en faire de s'en servir comme prétexte pour raconter une fiction. Et du coup, j'ai fait appel. Bon, j'ai travaillé avec Gilles pendant 5 ans, et j'ai fait appel à des souvenirs personnels de tournée, de tout ce qu'il y avait autour de ce spectacle, et quel était le lien qui pouvait ressembler avec une histoire de la vie réelle, avec mon âge et tout ça. Quoi.
Vous avez vous-même, quand vous aviez joué le spectacle, vous avez sillonné la France, le Québec aussi, je crois, la Suisse. Est-ce que vous êtes arrivé de jouer devant un public particulier, extraordinaire, pour telle ou telle raison?
Il y a toujours des événements incroyables, des choses qui se passent parce que chaque spectacle est différent. Moi, je me rappelle en particulier un des spectacles qui m'a beaucoup plu parce que c'était dans un festival gratuit en Suisse, en plein air. C'est-à-dire que c'est des très très mauvaises conditions. En général, on entendait la musique des choses, des tremplins voisins, enfin des scènes voisines. Et ils ont annoncé ça à l'affaire du sexe et du crime, c'était le titre à l'époque, un peu mauvais cinéma comme ça. Et les gens hurlaient, mais c'est très difficile de jouer dans ces endroits-là parce que les gens entrent et sortent, ils vont chercher des frites, ils reviennent, ils viennent voir un œil, mais ils restent pas, ils vont voir aussi ce qui se passe à côté. Et là, je suis rentrée comme dans une arène, je me dis, il faut tenir, faut capter. Et du coup, avec l'énergie de ce que renvoyait le public, qui était immense parce qu'ils étaient chauffés à blanc, et moi, je me disais, oh, je garde un très très bon souvenir de cette représentation.
Au fond, la vie d'Irène, de la comédienne que vous jouez dans le film, elle me semble un peu triste. Elle est toute seule, elle fait sa tournée avec juste sa voiture, sa chaise et un rideau en guise de décor. Et vous l'avez vécu, une vie comme ça, elle est triste ou pas?
Mais triste, moi, je dirais pas ça. C'est assez solitaire, effectivement, comme boulot. Et je trouvais ça bien de montrer cet aspect-là de ce métier que peu de gens connaissent. Parce que même en troupe, moi, j'étais très longtemps en troupe avec Jérôme Deschamps pendant une douzaine d'années. Donc, on se connaît bien, on se retrouve dans les hôtels. Mais il y a une espèce de routine aussi qui s'installe, même dans le fait qu'on voyage beaucoup, qu'on change d'hôtel, qu'on laisse la famille, les enfants là où ils sont. Il y a des journées à remplir qui sont celles aussi de la rêverie, que moi j'adore, mais aussi qui sont celles du temps, mais de se dire, tiens, je sais pas, dès que je suis à la maison, le temps se remplit autrement. Il y a les enfants, des courses à faire, c'est très... Là, il y a un temps de rêverie immense. Et moi, je dirais pas que c'est triste, mais c'est assez solitaire, oui.
Dans ce film, vous avez voulu mettre le parallèle entre la vie réelle et le rêve, mais quand on commence à vivre réellement un rêve, ça finit pas toujours bien. C'est pas ça que vous avez voulu dire aussi dans le film ?
Ben, je pense que ce qu'on cherche, moi le parallèle, c'est qu'on est effectivement, on cherche à mettre du rêve dans sa propre vie. On a besoin de l'alimenter. On est tous faits de ça. On aime ça. Et considérer que sa vie est un roman, c'est génial. Je trouve qu'il faudrait tout le temps le faire. Maintenant, que ça finisse bien ou pas bien, je m'en fous un peu. C'est-à-dire que je trouve là, par exemple, dans le film, Irène vit une histoire d'amour qui est, malgré tout, elle est jolie. Et même si c'est... ce qu'est une phrase de Lacan que j'aime bien, moi, qui est un peu dure, mais qui dit « L'amour, c'est un sentiment qu'on n'a pas pour quelqu'un qui n'en veut pas. » Et pourquoi pas ? Mais pourquoi pas, d'ailleurs ? Moi, j'entends bien cette phrase. Mais il y a aussi cette projection qu'on se fait dans l'autre toujours, peut-être parce que pour fuir peut-être des angoisses existentielles. Et quand ça marche ensemble, que ce soit, même si c'est pour des raisons différentes, que ça colle un moment entre deux et qu'on a cette impression de volupté, c'est-à-dire d'être en parfaite osmose avec l'univers entier, c'est génial. Et ça, c'est toujours ça de pris sur l'ennemi. On s'en fout que ça finisse mal. Puisque ça commence bien.
Pas une vie typique d'une star. Vous êtes installée à la campagne. Est-ce que vous êtes heureuse ?
J'essaye. Je fais mon maximum. J'essaye parce que le bonheur, c'est comme, je sais pas ce que c'est moi, mais c'est des petits moments qu'on chope comme ça à gauche à droite. Et des fois où je me plains, où je vois tout en noir, je me dis attends, t'as des enfants magnifiques, t'as un mari super.
Ils font tous du cinéma d'ailleurs.
Et oui, il travaille dans le cinéma, en tout cas, ma fille comme script, mon fils comme machiniste, mon mari aussi, voilà. Puis on vit à la campagne, c'est un luxe aussi. Je me réveille, j'ai des fleurs, un potager. J'oublie pas ça.
Le téléfilm français L'enfant d'une autre de Virginie Wagon a été sélectionné en compétition officielle à Carlo Vivari en 2006. Catherine Jacob y interprète le rôle principal de Maud, une riche femme d'affaires qui croise un jour une jeune fille en qui elle croit retrouver le bébé qu'on lui avait volé 10 ans auparavant. Catherine Jacob.
C'est quand même une femme qui s'est fait voler un bébé de 6 mois 10 ans auparavant. ça ne m'est pas vraiment arrivé. Mais j'ai quand même eu l'occasion d'avoir quelques angoisses dans ma vie. Donc ça n'a pas la même amplitude, évidemment, mais on est quand même censé, acteur, travailler sur l'imaginaire. Donc on ne fait pas de documentaire, on fait de la fiction. Donc j'ai été très intéressée par le traitement 10 ans après de l'événement. C'est pas un événement qui arrive à chaud. C'est le parcours d'une femme qui s'est complètement desséchée, durcie, qui est devenue implacable, impitoyable, limite de la folie, mais en réalité limite de la folie pour les autres, parce que dans son idée fixe, elle est extrêmement cohérente. Donc c'est quelqu'un qui, bizarrement, après un drame pareil, peut se faire voler un enfant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuil, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de trace. Même si elle a passé 10 ans à rechercher ça, elle est toujours dans un flou total avant de rencontrer la petite fille, qu'elle rencontre fortuitement, évidemment. C'est quelqu'un qui, bizarrement, a eu une explosion de personnalité. Elle a complètement coupé les ponts avec pratiquement... tout ce qui était affectif, ses amis, le mari, la famille, elle la supporte tout le monde. Et en même temps, c'est devenu une tueuse professionnellement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... une sorte de renaissance d'elle-même par un tel drame fait que, au lieu de la fragiliser, ça l'a complètement décuplée. Et rien ne va l'arrêter. Elle peut complètement vous trucider si jamais vous êtes sur son chemin. Parce qu'elle sait qu'elle a raison. Elle est seule contre tous à savoir qu'elle a raison, et elle a raison. Sauf que c'est très ambigu pendant tout le film. Et moi, l'intérêt de la chose, c'était de faire un personnage qui soit ni léger, ni racoleur, ni séducteur, qui refuse absolument le pathos. Il n'y a aucune compassion envers elle-même. Elle est dans une dureté totale. La seule chose qui compte, c'est le résultat. Donc c'est très amusant parce que ça permet d'éliminer quelques petites scories.
On voit dans le cinéma souvent dans les rôles justement de mère, de famille.
On voit toutes les femmes du monde dans les rôles de mère. C'est comme ça. Ça c'est la connerie des scénaristes. Je veux dire, on peut pas. On en est encore là. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je veux dire, les hommes ont le droit de faire beaucoup de choses, éventuellement de s'entretuer beaucoup. Mais ça c'est un privilège que je leur je ne conteste pas, hein. J'ai pas vraiment envie d'aller sur ces travées-là. La réalité est qu'on en est encore là, on est encore à l'âge de pierre. Hein. Une femme, c'est une épouse et une mère, hein, quand même, hein, qui est quand même une pure connerie, parce qu'on peut quand même faire autre chose. Mais voilà, on en est encore là en 2006. Mais c'est pas mon petit cas personnel. Moi, j'aimerais aller plus vers des choses qui sont de l'ordre du cérébral ou du socialement cérébral. Enfin, je veux dire, une femme d'affaires, une femme politique, ou une militante, ou une suffragette, ou une syndicaliste. Enfin, je veux dire, des femmes qui font avancer la société. Parce que je dis pas que les femmes au foyer ne le font pas. Mais enfin, bon, ça dépend à quelle époque, déjà. Et puis, évidemment, on peut parler de l'éducation beaucoup, mais je pense qu'il faut aller vers des rôles qui s'adressent et qui reflètent toutes les strates, tous les pistons d'une société.
C'était Catherine Jacob et Yolande Moreau sur Radio Prague. Magdalena Hrozinková vous remercie de votre attention. À partir de la semaine prochaine, Culture sans frontières, ce sera avec Anna Kubishta. Au revoir et bonne écoute de la suite de notre programme.